Quelle joie d'être avec vous ce soir et toujours une bénédiction de la communion fraternelle et nous avons pu vraiment en profiter aujourd'hui et je remercie le Seigneur. Merci aussi de vos prières pour l'Église de Rouen. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont prié pour que le Seigneur réponde aux besoins de l'Église pour un pasteur et Dieu a répondu et il fallait que ce soit Dieu, parce que c'est sûr que on n'aurait pas choisi de nous-mêmes de quitter le Québec et venir en France. C'est Dieu qui a vraiment arrangé tout cela. Et on loue son saint nom pour cela. Et vous savez, peu importe là où Dieu nous met, si c'est Dieu qui nous met là où il nous met, et on en est conscient, on est capable de le voir. Dieu remplit nos cœurs de joie et non de tristesse, d'être vraiment à son service. Est-ce que je vous ai demandé de tourner à l'épître de Paul au Philémon? Je ne sais pas. OK, d'accord. Ben, je vous demande, s'il vous plaît, de tourner à l'épître de Paul au Philémon. Je suis rassuré ce soir parce que je sais que si ce que je dis sonne un petit peu trop, je ne sais pas, américain, il y a plein d'Américains dans la salle. Puis il n'y aura aucun problème. Et je suis vraiment rassuré ce soir, parce que si ce que je dis sonne trop québécois, c'est parmi Pierre Plante et Pierrette sont parmi nos meilleurs amis au Québec. On se connaît depuis une trentaine d'années et Pierre a souvent prêché dans notre église et j'ai prêché dans son église et nos enfants ont allé au même camp chrétien ensemble. Nous avons célébré des mariages ensemble. Nous avons toute une histoire. Hein. Puis, c'est rassurant pour moi de l'avoir là ce soir. Je peux parler comme je veux. Puis il y a au moins trois personnes qui vont me comprendre. Bon, ma femme. Regardons la parole de Dieu. On va regarder Onésime. L'histoire d'Onésime, un homme qui a été rendu utile pour l'œuvre de Dieu. Philémon, verset 8, s'il vous plaît. Regardez Philémon, verset 8, à partir du verset 8. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, vous comprenez, c'est l'apôtre Paul qui écrit cela, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière. Étant ce que je suis, Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile. Et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi aux plus fortes raisons, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Prions. Merci Seigneur pour ces moments que tu nous accordes. Dirige-nous, aide-moi. Seigneur, que ce message soit clair, que le messager soit pas un empêchement au message. Notre désir ce soir, c'est par amour envers toi et envers ta parole, pouvoir t'écouter, Seigneur, et que ton esprit puisse vraiment jouir d'une pleine liberté parmi nous pour faire application de ta parole à chacun de nos cœurs. Tu connais chaque besoin, chaque heure, et tu connais nos besoins. Encourage-nous ce soir dans notre engagement dans ton œuvre et aide-nous par cet exemple que nous avons devant nous dans cette partie de ta parole. avoir des principes qui vont nous encourager justement dans ce sens. On prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, regardons d'abord un peu le contexte des versets que nous venons de lire. Premièrement, une question, où se passent ces événements? Et selon ce que nous voyons, et on va prendre juste quelques minutes pour vraiment regarder l'arrière-plan, pour pouvoir ensuite faire une regarder des principes, mais il faut voir le contexte un peu, où se passent ces événements. Apparemment, à Colosse, ou dans la région de Colosse. Dans les versets 23 et 24, il dit « Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. » Et donc, il termine en disant que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Donc, c'est intéressant de voir que dans la conclusion de l'épître de Paul aux Colossiens, on voit Épaphras. Dans Colossiens, oui, chapitre 4, verset 9, on voit Épaphras, le même qui est mentionné ici, verset 23. Et on voit aussi Onésime. Dans l'épître de Paul aux Colossiens. Et il dit de ces deux hommes-là, Épaphras et Onésime, ils sont tous les deux des vôtres. Et il dit ça aux Colossiens. Il y a aussi le fait que Paul envoie des salutations à Archip, verset 2 de Philémon, à qui il envoie aussi une exhortation dans Colossiens, chapitre 4, et le verset 17. Donc, Colossiens 4, verset 9, il dit, je l'envoie avec Onésime, c'est Tychique qui apporte la lettre de Paul aux Colossiens, il dit, je l'envoie avec Onésime, le frère fidèle et bien-aimé, qui est des vôtres. Il vous informera de tout ce qui se passe ici. Puis dans Colossiens 4, verset 12, Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Alors, avec ces données-là, on arrive à la conclusion que ces événements se passent à Colosse, dans la ville de Colosse. Quand? À quel moment dans l'histoire biblique? Il est évident. Il y a eu quelques divergences d'opinion là-dessus, mais la plupart des commentateurs sont d'accord pour dire que ces événements, ou bien la lettre au moins est envoyée, et les événements auxquels il fait référence arrivent aussi durant le temps que Paul est en prison à Rome. Et ça serait l'emprisonnement dont il est question dans les actes des apôtres. Et juste pour voir cet aspect-là, il faut comprendre Paul est prisonnier, c'est important pour ce qui va suivre. Mais regardez, par exemple, dans le verset 9, les versets 9 et 10, regardez ce que ça dit. Hein. Ça dit, « C'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, un vieillard, et de plus maintenant, quoi? Prisonnier de Jésus-Christ. » verset 10, « Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes. » C'est assez évident. Et on voit la même chose au verset 13 aussi. Regardez verset 13, ça dit, « J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. » Et le verset 23, Épaphras, mon compagnon de captivité. Tous ces petits détails qui sont là, qui nous rappellent que, un peu le contexte de l'apôtre Paul, ce que lui vit à ce moment-là, et c'est important à voir. Et donc, quel est le but de cet épître? Pourquoi Paul écrit-il à Philémon comme cela? En résumé, il s'agit d'Onésime. Onésime qui était esclave. Si on connaît un peu l'histoire de l'Empire romain, on sait jusqu'à quel point cette réalité de l'esclavage faisait partie de l'économie et de la vie de l'époque. Bon, on voit ça ici. Onésime avait été esclave. Il s'était enfui d'auprès de son maître, Philémon. Philémon était son maître. Mais Philémon était quand même un chrétien d'importance qui exerçait une influence. Un chrétien riche quand même, qui était à l'aise financièrement parlant et influent, comme j'ai dit, dans la région de Colosse. Onésime s'est réfugié à Rome. Il a quitté la région de Colosse pour se réfugier à Rome. C'est assez loin. C'est important à voir cela. Donc, il s'est réfugié à Rome et on ignore les détails. Mais à Rome, il a rencontré l'apôtre Paul. Ou bien quelqu'un l'a amené à Paul, parce qu'on sait qu'à ce moment-là, Paul est libre de recevoir les visites et de prêcher l'Évangile, comme on va voir. Donc, mais on ignore les détails, mais on sait qu'il a, il a pu rencontrer l'apôtre Paul. Et Paul lui a annoncé l'Évangile de Jésus-Christ. Et donc, Onésime a cru à l'Évangile. Onésime est né de nouveau, engendré, né de nouveau. Alors, bon, qu'est-ce qui se passe maintenant? Paul renvoie Philémon pour que Philémon lui accorde sa liberté. Et donc, parce que, selon ce que nous voyons ici, c'est maintenant le désir de Paul qu'Onésime devienne un co-ouvrier avec lui dans l'œuvre de l'Évangile, un co-ouvrier avec lui dans l'œuvre de Christ. Alors, regardons, prenons quelques moments pour regarder cet exemple d'un homme qui est rendu utile pour l'œuvre de Dieu, dans le service de Dieu. Voir quelques éléments par son témoignage. Je cherche l'horloge, je regarde ma montre. Ouf! Et vous parlez de l'adaptation à la France. C'est quand j'ai entendu dire apparemment qu'il y a des églises en région parisienne qui font leur réunion de prière à 9 heures du soir. C'est, on n'est pas habitué à ça. Non, en tout cas. Mais ne vous inquiétez pas, je vais essayer de ne pas être trop long parce que nous aussi, nous devons nous rendre jusqu'à Rouen ce soir. Donc, mais regardons cela. Quel beau passage, quel exemple de quelqu'un que par la grâce de Dieu a été rendu utile. Et ça commence où? Ça a commencé où pour Onésime? Mais ça a commencé au même moment, ou si je peux le dire, au même endroit que ça a commencé avec nous, chacun de nous. Ça a commencé au moment où Onésime a rencontré Dieu. Il y a eu une rencontre avec Dieu qui a eu lieu. Et j'aime tellement cette histoire parce qu'on voit la main de Dieu dans ce qui s'est passé dans la vie de cet homme. Cette rencontre qu'il a eu avec Dieu, par la grâce de Dieu et la bonté de Dieu, cette rencontre a été arrangée par Dieu. Verset 15. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité. Voyez-vous la main de Dieu dans ce verset-là? Peut-être a-t-il été séparé. Ce verbe « séparer » est au passif. Le sujet de ce verbe « séparer », c'est Dieu. C'est Dieu qui a arrangé cela comme ça. Et il a fait ça, il a arrangé cela malgré la situation, les circonstances dans lesquelles se trouvait Onésime. Malgré cela. C'est quelque chose à constater. Parce qu'on parle d'un homme qui s'était rebellé contre son maître. Et ça, c'est facile à dire, OK? On pense à l'esclavage, puis on pense, OK... Mais écoutez, regardons tout le contexte. Là, on parle de quelqu'un dans le contexte de l'Empire romain, où souvent les esclaves étaient considérés comme faisant partie un peu du foyer, de la famille. Et il y a ça, il y a aussi le fait qu'il s'est rébellé contre, pas n'importe qui, mais contre un chrétien comme Philémon. On voit quel genre de chrétien il était dans les premiers versets de cet épître. Regardez le premier verset où Paul dit, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre. C'est ça, Philémon, un bien-aimé de Paul et un compagnon d'œuvre de Paul. Et à la sœur Aphia, quelques-uns pensent qu'il s'agit de la femme de Philémon, on ne peut pas être sûr de cela. Et à Archippe, comme on a déjà fait référence à Archippe, il y en a qui pensent que c'était peut-être leur fils. Mais notre compagnon de combat, il dit. Et à l'église qui est dans ta maison. Donc, ce n'est pas n'importe qui, Philémon. C'est un homme qui aime Dieu, qui aime l'œuvre de Dieu et qui aime les chrétiens, qui aime les gens. Verset 3, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. C'est ça, Philémon. C'est le sort de chrétien qu'il était. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. Finalement, c'est quelqu'un qui participe, et ça veut dire, le mot en grec, ça donne, c'est l'idée de contribuer. Finalement, c'est quelqu'un qui contribue d'une manière concrète dans l'œuvre de Dieu. Par des biens matériels ou bien l'argent, mais il aidait les chrétiens. Et on pourrait continuer, mais c'est contre un contexte comme cela qu'Onésime s'est rebellé. Et donc, c'est incroyable. Et donc, il est devenu fugitif. Il s'est réfugié dans la grande ville de Rome, qui était à l'époque probablement le meilleur endroit pour aller se cacher et se perdre dans la foule. Tout est là pour l'empêcher d'être ouvert à la vérité. On peut dire qu'un point de vue humain, tout est là pour lui permettre de continuer dans sa rébellion. Mais malgré tout cela, il rencontre Dieu. Mais regardons un autre aspect dans cette histoire. C'est que malgré les circonstances de Paul, Dieu intervient. Paul se trouve où? On l'a bien vu, hein? Paul se trouve où à ce moment-là? Est-ce que Paul est libre de parcourir la ville en prêchant l'Évangile dans les rues et dans les maisons? Est-ce que Paul est libre de faire tout ce qu'il aimerait faire dans la vie? Absolument pas. Il est en prison. Alors, regardez les circonstances de ces deux hommes-là. Tout est là pour, d'un point de vue humain, tout est là pour empêcher que l'Évangile avance, qu'une âme soit sauvée, délivrée. Mais vous savez, c'est un peu comme l'histoire de Joseph. dans Genèse chapitre 50, où Joseph dit, il dit à ses frères, ils avaient vendu, n'est-ce pas, en Égypte, et toute cette histoire, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Alors, il y a eu une rencontre qui a eu lieu. Onésime a rencontré Dieu. Et cette rencontre a permis à Onésime, oui, d'avoir accès, évidemment, au message de Dieu, à l'évangile de Jésus-Christ. Et il est évident, tout cela, c'est clair, les mots qui sont employés dans cet épître qui met un accent sur cet aspect de ce qui se passe dans la vie de cet homme, Onésime. Les versets 10 et 11, exemple, regardez, Paul, il dit, « Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans les chaînes, qui autrefois t'était inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. » Engendré, dans le verset 10, veut dire littéralement « enfanté », que j'ai enfanté, ou bien que j'ai amené à la vie, c'est amener quelqu'un à la vie. Et nous savons l'importance que la Bible met sur la nouvelle naissance, évidemment, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, elle, la parole, Jésus, a donné le pouvoir de devenir, quoi, enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean 3, verset 3, Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3, 7, « ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Et l'on voit par les mots qui sont employés ici que Onésime naît de nouveau. Le message lui est annoncé. Regardez le verset 13. Le verset 13, ça dit, « J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour... » Pourquoi? Pour l'Évangile. Donc, on voit l'accent qui est quand même mis sur le message aussi que Paul n'arrête pas d'annoncer malgré le fait qu'il se trouve en prison. Parce que pour Paul, c'était une nécessité. Pour Paul, annoncer l'Évangile, c'est sa vie. Et il nous dit dans Corinthiens 9, chapitre, verset 16, « la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Alors, on voit la main de Dieu et on voit aussi la bonne volonté et la consécration de Paul aussi. Même en prison, Paul, il dit aux Éphésiens, il dit, « Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance. » Comme je dois en parler. Et dans Actes chapitre 28, les versets 30 à 31, on apprend un petit peu justement sur cette période où Paul est en prison à Rome. Et ça dit dans le verset 30, ça dit « Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté. » Liberté et sans obstacle. Donc là, on voit qu'il faut saisir donc les occasions que Dieu met devant nous. Imaginez, si Paul, si l'apôtre Paul s'était laissé distraire par ses circonstances, par sa situation. Mais là, J'ai plus la liberté de sortir comme je veux. Je peux plus faire ceci, je peux plus faire cela comme avant. Pauvre de moi. Pauvre de moi. Ah, que je fais pitié. Pauvre de moi, pauvre de moi. C'est pas du tout, hein, comme ça que Paul voyait les choses. Paul reste consacré à son Sauveur pour annoncer le message. Paul reste en état, dans un état spirituel pour pouvoir voir la main de Dieu dans ce qui lui arrive. La main de Dieu dans ce qui lui arrive. Sommes-nous des chrétiens comme ça, qui sont capables de voir la main de Dieu, peu importe ce que nous sommes appelés à vivre, peu importe nos circonstances. L'Évangile est annoncé et Paul saisit les occasions et nous devons saisir les occasions, être capables de voir sa main dans chaque circonstance, peu importe. J'aime beaucoup le passage dans Esther où, vous savez, en tout cas, Mardoché, il fait dire à Esther, lorsque le peuple juif est menacé de destruction par le plan d'Aman, je peux parler en détail, si vous vous souvenez des histoires, vous vous souvenez de ce que Mardoché a dit à Esther, il dit, car si tu, si, ou il a fait dire à Esther, car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Qui sait? Alors, peu importe nos circonstances, Dieu est encore là. Il est encore là. Quel bel exemple. Celui de Onésime et de Paul qui le reçoit. Mais il s'agit donc de quelqu'un qui entend l'Évangile et il est miraculeusement transformé. Il est transformé de quelqu'un d'inutile en quelqu'un d'utile. Et si on va aborder, c'était censé un peu être mon thème de ce soir, on va aborder ce thème de service et de trouver ma place dans le service de Dieu. Il faut revenir, je pense, toujours à ces vérités de base. C'est qu'en dehors de la grâce de Dieu, nous sommes tous inutiles. Inutiles. Sans la grâce de Dieu dans nos vies. Et je crois que sans voir sa main dans nos vies, nous resterons toujours, jusqu'à un certain point même en tant que chrétiens, pas aussi utiles qu'on devrait l'être. Regardons un peu ce qui se passe chez Onésime. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait voir, mais il y a au moins deux ou trois choses. Il y a un changement de caractère chez Onésime. C'est frappant. Vous savez, il y a des, ce que j'appelle, ce qu'on appelait des professions de foi, il y a des vraies conversions. Il y a des gens parfois qui répètent des prières, genre répétez après moi, et il y a des gens qui, comme il dit dans Romains, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité dans les morts, tu seras sauvé. Là, on a devant nous un exemple d'une vraie conversion, de quelqu'un qui est vraiment transformé, régénéré, c'est le vrai mot théologique. Hein? Il y a un changement de caractère, il est transformé de quelqu'un d'inutile à quelqu'un d'utile. Il y a un jeu de mots ici dans la langue originale. Parce que, est-ce que vous savez ce que le nom, son nom, Onésime, veut dire? Son nom voulait dire utile. C'est assez un bon Québécois comique. verset 10. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans les chaînes, utile, qui autrefois t'était inutile, mais qui maintenant est utile. Il y a une raison pour laquelle c'est écrit comme c'est écrit. Il y a un vrai jeu de mots qui est en train de faire. C'est fascinant à voir. Et ça met l'accent sur le vrai changement qui a eu lieu dans le cœur de cet homme et dans la vie de cet homme. Et qu'est-ce que voyons-nous dans le passage qui sert de preuve de ce que nous sommes en train de dire? Mais il y a premièrement le fait que Onésime n'est plus voleur. Il était voleur avant. Comment le savons-nous? Verset 12, première partie, regardez ce que cela dit. Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. Ben, c'est pas ça que je voulais. Verset 14. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis. C'est pas ça non plus que je voulais voir. Merci beaucoup. Oui, c'est ça, je regardais le deuxième point. Ben, verset 18. Où il dit, s'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Puis il dit, moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi, s'il t'a fait quelque tort. Et selon ce qu'on voit dans ce passage-là, apparemment, il y a plus que le fait que Philémon s'est sauvé, s'est enfui, il aurait probablement volé, mais il n'est plus voleur, il est maintenant serviteur. Avant, il prenait. Et dans le monde, c'est ça. Hein? Dans le monde dont Satan est le prince de ce monde et des valeurs de ce monde, c'est considéré comme tout à fait normal dans la vie de tout faire pour pouvoir prendre le plus que possible, n'est-ce pas? C'est considéré comme normal, c'est ce qui motive la plupart des gens, n'est-ce pas, dans le monde. Et Onésime aussi était quelqu'un comme ça. Avant, il prenait, et maintenant, il donne, il se donne. C'est simple, mais c'est en même temps très profond, n'est-ce pas? C'est ça que la grâce de Dieu fait dans un cœur, dans une vie, qui rencontre Dieu en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il nous transforme, en nous ce qui nous motive, ce qui nous pousse à agir, il transforme nos cœurs. Verset 11, il était inutile, il est maintenant utile, et à toi et à moi. Et aussi, verset 13, où il dit, j'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Alors, il se donne. Il y a un autre aspect aussi qu'on voit, où on voit comment il a été transformé. Il n'est plus renégat, il n'est plus fugitif. Maintenant, au lieu de fuir ses problèmes, il fait face aux solutions, ces problèmes. Et ça aussi, c'est un élément très simple, mais très profond, qui sépare un chrétien animé par la grâce de Dieu dans sa vie, n'est-ce pas, et le monde. Le chrétien cherche les solutions à ses problèmes. Il sait que les solutions se trouvent en Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est ce qui fait du chrétien quelqu'un de serviable, quelqu'un qui peut rendre gloire à Dieu par son implication dans l'œuvre de Dieu. Au lieu de prendre, il donne. Au lieu de s'enfuir, il court après les solutions et les vrais remèdes et les réponses aux problèmes de la vie, de ses problèmes et aux problèmes de la vie. Il cherche la réconciliation. La réconciliation. Verset 12 et verset 14, et c'est ce que nous avons regardé tout à l'heure, où Paul dit, je te le renvoie. Juste ça. Je te le renvoie. Et là, on a vraiment l'impression, je pense que nous avons le droit de prendre pour acquis que Onésime est à 100% d'accord, il complice 100% d'accord avec ce projet de Paul pour... il accompagne Tychique là, avec la lettre que Paul envoie à Onésime pour faire face à la musique, pour vraiment faire face à Onésime qu'il a offensé. C'est chrétien ça, n'est-ce pas? Et c'est merveilleux ce que Dieu fait. Écoutez, selon les lois romaines, Onésime aurait pu souffrir terriblement aux mains de son maître en raison de sa fuite. Et vraiment, mais ça ne l'a pas empêché. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et donc, c'est ce qui se passe chez Onésime. Il est maintenant apte, par la grâce de Dieu, d'être impliqué au service de son roi. Il y a un changement de condition aussi chez Onésime. Il n'est plus un esclave. Ça, c'est important à constater. Il n'est plus un esclave. Il est maintenant un frère, selon ce que Paul dit dans les versets 16 et 17, et selon ce que nous voyons dans Colossiens chapitre 4, et le verset 9, il est un frère bien-aimé, il n'est plus esclave. Il est maintenant un frère bien-aimé. Il n'est plus inutile, il est maintenant utile, profitable. Il peut assumer son rôle dans le corps de Christ et aussi dans la société en tant qu'un vrai témoignage de la grâce de Dieu. Alors, c'est quel bel exemple. Normalement, quelqu'un qui est né de nouveau, si on reste fidèle vraiment à prêcher l'Évangile, on croit vraiment que Dieu peut encore transformer les vies, comme il a transformé la vie d'Onésime, on n'aura pas à s'inquiéter de comment nous allons trouver notre place dans l'œuvre de Dieu. Si notre cœur était transformé comme le cœur d'Onésime, c'est comme normal. Ça va arriver. Quelques exemples sans trop prendre de temps. Vous avez vos histoires aussi, mais je n'oublierai jamais lorsque il y avait un homme que nous avions commencé, avec qui j'avais eu quelques rencontres, ça faisait 5 ans qu'on priait pour lui, mais parce que, vous savez, il y a beaucoup de similarités entre l'œuvre au Québec et l'œuvre en France. Il faut être très patient, c'est un peu différent, mais il y a au Québec qui n'a pas connu une révolution, comme la France. L'Église catholique est restée très, très forte pendant bien des années. L'Église au Québec était l'Église médiévale. Et ça, c'est le mot des catholiques eux-mêmes qui le disent aujourd'hui, très, très forte. Et les gens, très, très, en général, fermés. C'est vrai que ça a un peu changé, mais on priait pour lui et il s'est converti, enfin. Il est venu chez nous avec sa femme. Sa femme a commencé à écouter. Et sa femme, à un moment donné, son mari est allé aux toilettes. Et il nous a laissé seuls avec sa femme. Et aussitôt qu'il n'était plus dans les parages, elle nous regarde et nous dit, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous enseignez à mon mari? Et Pierre et Pierrette les connaissent. Dolorès et Jean-Thomas. Puis, je ne savais pas, hein, est-ce que c'était pour nous critiquer, pour nous... puis elle a dit, parce que mon mari, ce n'est plus le même homme. Leur mariage avait pris une direction vers une séparation et un divorce. Mais lorsque son mari a rencontré Dieu en Jésus-Christ, sa vie était transformée. Il a commencé à prendre au sérieux les enseignements de la parole de Dieu par rapport à sa responsabilité envers sa femme et envers sa famille. Quelque temps après, sa femme est venue au Seigneur et des vraies transformations. Et ce mari, qui était musicien, qui avait été très impliqué au niveau de l'Église catholique, a dirigé des chorales et tout ça. Notre Église, qui jusqu'à ce moment-là était vraiment sans musiciens depuis très longtemps, Dieu a commencé une œuvre dans la vie de cet homme-là, et pour raccourcir mon histoire, parce que il a été transformé de quelqu'un qui prenait, quelqu'un qui voulait se donner, parce qu'il a été transformé de quelqu'un qui avait pris l'habitude de s'enfuir, en quelqu'un qui recherchait les solutions à son problème. Dieu l'a rendu disponible, quelques années plus tard, tout ça a fini par la production de CD de musique chrétienne qui ont fait le tour du monde francophone. Si vous avez connu des CD d'une chorale de Québec, ben c'était la chorale de notre église. Et c'était cet homme que Dieu a transformé. Ça commence là. Il y a d'autres exemples qu'on pourrait donner. Je pense à un autre exemple qui est complètement différent. Et c'était chez les Amérindiens, parce qu'il y avait à côté de notre ville une communauté amérindienne. Et nous avons eu contact avec eux. Et à un moment donné, la femme du chef est venue au Seigneur. Et vraiment, elle aussi, sa vie a été transformée. Les gens qui lui ont dit, « Hey, Angèle, tu as complètement été transformée, tu n'es plus la même personne. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Là, tu souris maintenant, tu ne souriais pas avant. Qu'est-ce qui se passe? » Et pas longtemps après, avec ce qui s'est passé dans son cœur et s'est donné pour servir le Seigneur, et là est venu le moment où cette femme du chef amérindien se retrouve assise à côté de ma femme, Minani, la femme du pasteur Baptiste. Alors, la femme du chef assise à côté de la femme du pasteur Baptiste à une table des livres, à une expo du livre, où notre église avait des traités, puis des livres qu'on vendait aussi, je n'étais pas là, mais la manière dont ma femme raconte la réaction des gens de la ville de 35 000 personnes, ce n'est pas une grosse ville. Les gens savent que c'est la femme du pasteur à côté de la femme du chef. Il entre dans le salon du livre, puis qu'est-ce qui se passe? Puis après... Tu veux dire que les Amérindiens sont les bienvenus dans votre église? Oui. Bon, on ne pensait pas. On n'aurait pas osé. Et elle et d'autres, avec tout ça, Dieu a fait toute une œuvre. Et il y en a plusieurs qui ont accepté le Seigneur et qui sont devenus membres de notre assemblée. Et en fin de compte, son mari, le chef, est venu au Seigneur. Et la journée qu'il a été baptisé, il a donné son témoignage en français et en montagnier, la langue amérindienne de leur communauté. Et pas longtemps après, ben là, j'ai fait référence à ces, juste comme exemple, ces trois CD de musique chrétienne. Bon, on entend des voix, non seulement des, ce qu'on appelle des Québécois pure laine, mais aussi on entend les voix du chef de la réserve de la communauté montagnaise et sa femme. C'est ça que ça prend. Moi, j'espère que Dieu a pu se servir de ce passage pour nous réchauffer le cœur et nous encourager dans cette œuvre de partager l'Évangile de Jésus-Christ. Avez-vous été transformé par l'Évangile de Jésus? J'espère que oui. Est-ce que vous êtes un outil de Dieu pour annoncer l'Évangile comme l'apôtre Paul? Peu importe vos circonstances. Si oui, c'est sûr que Dieu va travailler. Merci Seigneur pour ces moments que tu nous as donnés ensemble dans ta parole. Et merci pour cette journée encore une fois et cette communion ce soir, ces partages. On te loue, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos églises, dans nos assemblées. Aide-nous, Seigneur, à continuer sur ta parole. Je t'ai défilé parce que nous savons que tu es fidèle.